Vous écoutez
RMC.
Très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le témoignage RMC d'une mère en colère. Sa fille est l'une des 9 victimes d'un animateur du périscolaire parisien, accusé de harcèlement et agression sexuelle. Il est jugé aujourd'hui, premier procès dans ce dossier depuis le début du scandale. Parti d'Ushuaïa en Argentine, bloqué au large du Cap-Vert. L'incertitude pour les 149 passagers d'un bateau de croisière interdit de débarquer ce matin en raison d'un possible foyer d'antivirus. Et c'est l'un des gagnants de la hausse des coûts du carburant. Le train a plus 12% des ventes en avril sur les TER. C'est une information RMC.
Un ancien animateur du périscolaire parisien jugé à Paris.
Premier procès d'une longue série dans ce dossier qui a mis à jour un problème d'ampleur nationale et conduit à la suspension de 78 personnes depuis le début de l'année dans la capitale. L'affaire remonte à 2024 quand cet homme de 47 ans est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par 9 jeunes filles scolarisées dans une école du 11e arrondissement de Paris. Parmi les jeunes victimes présumées, Pénélope, sa mère attend des réponses et une sanction à la hauteur des actes commis. Julie Brault l'a rencontré, c'est un témoignage RMC.
La colère, l'effroi sont toujours là 2 ans plus tard.
Contre l'animateur, bien sûr, contre les adultes qui n'ont pas su voir ce qui se passait sous leurs yeux.
Pénélope se souvient encore de ce mois d'octobre 2024 quand sa fille et 8 de ses camarades de CM2 ont dénoncé les câlins, caresses et propos sexuels répétés de leur animateur.
Ils racontaient des récits de viols extrêmement violents. Ils faisaient des câlins serrés avec insistance sur la poitrine. Il avait des propos du genre « je voudrais te faire des bisous partout mais je ne peux pas ». Il faut saluer l'immense courage de ces petites filles qui ont trouvé la force de dénoncer cet homme.
Le comportement de l'homme de 47 ans en poste dans l'école depuis une dizaine d'années avait pourtant déjà été signalé, assure la mère de famille.
Mais l'animateur n'a pas été inquiété plus que ça.
Aujourd'hui, Pénélope attend une justice ferme et sans équivoque.
J'espère aussi que notre fille comprendra qu'avoir parlé était indispensable et utile et qu'il y a quelque part des adultes et une justice pour les croire et les protéger.
Mais surtout, elle espère que ce procès initiera un sursaut collectif.
Parents, professeurs, animateurs, protéger les enfants, garantir leurs droits. C'est un travail qu'on doit tous mener.
Contacté, l'avocat de l'animateur mis en cause n'a pas répondu à nos sollicitations.
149 passagers toujours bloqués ce matin à bord du MV Ondus, ce bateau de croisière à bord duquel 3 personnes sont mortes, suspectées d'avoir contracté une maladie respiratoire, l'antivirus, un potentiel foyer qui inquiète les autorités du Cap-Vert. C'est là, Romain Houg, que les passagers du navire, dont 5 Français, devaient débarquer.
Oui, mais le navire n'a pas été autorisé à accoster dans le port de la capitale capverdienne. Il a jeté l'ancre pour l'heure au large de l'archipel. À son bord, les 149 passagers et membres d'équipage sont confinés dans leurs chambres. Pour s'imaginer, ce sont des chambres pour la plupart d'une quinzaine de mètres carrés dans lesquelles vous êtes en couple ou en famille. Et à bord, c'est l'angoisse qui prédomine.
And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story.
Vous l'entendez dans la voix de ce passager qui a témoigné hier sur Instagram. Tout ce que nous voulons, c'est nous sentir en sécurité, dit-il, avoir des réponses claires et rentrer chez nous. À ce stade, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui assure suivre la situation de près, seuls 2 membres d'équipage présentent des symptômes. Des pistes sont envisagées pour les évacuer, notamment via des ambulances aériennes. Quant aux autres passagers, ils pourraient débarquer prochainement au Canada. Sur les îles de Las Palmas et de Tenerife.
On reste en mer avec un premier navire de l'armateur danois Maersk qui, après 2 mois de blocage, a pu franchir et quitter le détroit d'Ormuz, escorté par l'armée américaine. Dans le cadre de l'opération Liberté, le transit s'est déroulé sans incident, dit la compagnie au lendemain du passage de premier bateau marchand. C'est ce que disent les États-Unis à la plus grande satisfaction de Donald Trump.
Cela se passe très bien. Les Iraniens n'ont plus de marine, plus d'armée de l'air, plus d'équipement antiaérien, plus de radar, plus rien. Ils n'ont même pas de dirigeants en fait. Eux aussi, ils ont disparu.
Les États-Unis qui disent avoir détruit au moins 6 embarcations iraniennes démenties de Téhéran. La tension s'accentue ce matin au Moyen-Orient, risque de fragiliser la trêve à l'heure où des tirs iraniens ont visé les Émirats arabes unis hier, acte condamné par Emmanuel Macron. La guerre au Moyen-Orient, la hausse des coûts de l'énergie, la flambée des prix des carburants qui profite aux trains. La SNCF enregistre une augmentation de ses ventes sur les trains régionaux par rapport à l'an dernier, 12% de plus. C'est une information que vous révèle RMC ce matin. Une alternative plébiscitée par ces Français de Toulouse à Paris. Reportage Lucas Laubert.
Depuis toujours, départ en week-end rime avec coffre de voiture plein pour Pascal, mais cette fois...
Vous voyez, je suis devant vous avec les valises, gare Montparnasse.
Si pour ce séjour, il a choisi le train, c'est à cause de la flambée des prix à la pompe.
On remplit le réservoir du véhicule, on voit quand même la différence. Oui, je pense qu'il faut mieux prendre le train.
C'est ce que vous allez vous efforcer de faire maintenant.
Voilà.
Le train, plus avantageux que la voiture, aucun doute pour Thierry.
Il n'y a pas comme une mesure, quoi.
Tous les jours, il prend le TER entre son domicile à Carcassonne et son travail à Colomiers, distant de plus de 100 km. Un choix fait avant le début du conflit et la hausse des carburants. Et qu'il ne regrette pas.
Je crois que c'est de l'ordre de 90€ par mois un abonnement de train. Quand on compte aujourd'hui un plein sur une station-service, c'est 135€ les 50 ou 60 litres, un truc comme ça. On ne peut pas comparer, quoi, c'est improbable.
Une solution aussi pour les trajets plus longs. Claude prévoit de partir en vacances à Perpignan. Près de 300€ l'aller-retour en voiture depuis Saint-Nazaire, où il vit.
Alors que jusqu'à présent, je venais toujours en voiture. On s'est dit, ce serait peut-être le moment de voir un peu ce que ça nous coûterait en train. Donc on a comparé les deux. Un aller-retour, c'était 200€. Moi, je n'ai pas la qualité de train, mais je ne sais pas, on va réfléchir. Hein.
Mais à prix équivalent, il l'assure, il continuera de prendre la voiture.
Le rail qui pourrait avoir encore de beaux jours devant lui, le cours du pétrole continue de grimper ce matin autour des 115$. Conséquence de cette guerre au Moyen-Orient qui ne doit enrichir personne, pas même l'État. C'est le message de Sébastien Lecornu qui a dévoilé le montant du surplus fiscal de la flambée des coûts du carburant, 190 millions d'euros qui serviront à financer les aides du gouvernement à destination des grands rouleurs et des secteurs impactés. L'entrisme au cœur d'une bataille politique entre le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez qui prépare un projet de loi et Bruno Retailleau, ancien locataire de Beauvau, patron de LR, qui le devance avec une proposition de loi. Elle est étudiée aujourd'hui au Sénat. Les ambitions de Paul Sexas, qui a seulement 19 ans, s'engagera cet été sur les routes du Tour de France. Il sera au départ de Barcelone le 4 juillet prochain. Annonce faite hier, première participation pour le jeune prodige du cyclisme français qui a décidé de franchir le pas, Maria Azé, et ce n'est pas pour faire du tourisme.
Pas d'objectif clair, mais Paul Sexas a déjà déclaré qu'il ne prenait pas le départ du Tour de France uniquement pour le découvrir.
Il pourrait déjà viser un podium, ça c'est certain.
Jérôme Coppel, ancien coureur et consultant RMC Sport.
Quand Paul va sur une course, peu importe laquelle, il y va pour gagner. Maintenant, il y a énormément d'inconnus, il y a les 3 semaines, mais si on prend ses capacités purement physiques, il y a Tadej Pogacar, il y a éventuellement Jonas Vingegaard.
En plus du podium, Paul Sexas pourrait aussi remporter plusieurs étapes pour Jérôme Pinot, consultant cyclisme RMC Sport.
Avec la forme qu'il a, le départ à Barcelone, des étapes un peu difficiles, mais pas trop dès le départ, ça peut lui sourire, il peut tout espérer.
Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, se réjouit déjà d'un duel entre le quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, et le Français.
C'est sûr que c'est un élément d'attraction formidable. La légende du Tour de France s'est construite avec les champions génération après génération, donc il va s'inscrire dans cette légende-là et je lui souhaite évidemment le meilleur, mais je pense qu'il peut nous offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Avec un contre-la-montre par équipe suivi d'étapes difficiles la première semaine du Tour de France, il n'est pas impossible de voir Paul Sexas porter le maillot jaune cet été, au moins pour quelques jours.
Et on espère qu'on suivra le Tour de France de Paul Sexas sur RMC, tout comme le foot ce soir. Première demi-finale, retour de Ligue des Champions, 21h. Arsenal Atlético Madrid, un partout au match aller avant le choc tant attendu demain entre le Bayern Munich et le PSG. Le PSG qui partira avec un petit but d'avance.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h08, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et alors vous avez une bonne nouvelle Emmanuel, enfin je ne sais pas s'il faut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, donc la bonne nouvelle pour les actifs, c'est que nous avons fini de travailler pour financer les pensions des retraités.
Alors, vous connaissiez le jour de libération fiscale,
Oui.
C'est le 18 juillet. Le 18 juillet, on a fini de bosser pour l'État, on a payé tous nos impôts, et à partir du 18 juillet, tout ce qu'on gagne, c'est pour nous. Eh bien, hier, 4 mai, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler le jour de libération, allez comment appeler ça, le jour de libération filiale, nous. Nous avons fini hier de bosser pour financer la pension des 17 millions de retraités que compte la France. C'est ce qu'ont calculé deux économistes qu'on connaît hein, sur RMC, puisque vous les invitez souvent, vous les recevez souvent, Pauline, Maxime Sbahi, Erwan Tison. En fait, ils ont pris en compte toutes les cotisations sociales qui servent à financer les retraites pour un salarié qui gagne le salaire médian, c'est-à-dire 2 200€, et ils ont calculé que tout compris, y compris les dépenses de santé qu'on doit finalement honoré pour les retraités, tout ça représente 37% de notre salaire super brut.
37%
de notre super brut, donc ça veut dire quoi ?
37% de l'année.
37% de l'année, et ça nous met quand ? Ça nous met le 4 mai.
Alors c'est quand même beaucoup plus que chez nos voisins.
Oui,
ça fait un petit bout de temps en plus qu'ils bossent pour eux.
Alors c'est vrai que sur un temps de travail classique, ça représente quand même 85 jours de travail consacrés à nos anciens. 4 mois, en 1970, c'était 2 mois. seulement, et on était libérés, entre guillemets, dès le 27 février. En Europe, on est les avant-derniers du peloton devant l'Italie, ce sera le 15 mai, mais les Irlandais, eux, sont libérés depuis le 2 mars, deux mois avant, idem pour les Allemands. L'écart avec l'Allemagne, c'est de 24 jours, ça veut dire qu'un actif allemand récupère 5 semaines de travail de plus qu'un Français. Alors certes, il faut toujours dire dans les autres pays...
Le salaire de 5... Voilà.
Voilà. Dans les autres pays, c'est vrai qu'après, vous cotisez moins globalement, mais après, individuellement, vous payez un peu plus. Mais c'est quand même très loin de compenser la différence. La France a fait le choix des seniors plutôt que des jeunes. Ça n'est pas moi qui le dis. C'est le gouverneur de la Banque de France que vous receviez hier matin.
François Villeroy de Gallo. Comme chaque matin, Emmanuel, les chiffres du jour, ça remonte.
Ouais, ça remonte, tout remonte. Le gazole, on est à 2,20€ par rapport aux 2,15€ de ce week-end. Mais attention! Attention au petit effet trompe-l'œil de Total, hein, puisque Total avait baissé les prix temporairement ce week-end et les a remontés hier. Le samplon 95, on a repris 6 centimes depuis deux semaines, 3 centimes depuis une semaine, on est à 2,02. Le pétrole brut, fort rebond, le pétrole brut n'aime pas le bruit des armes dans le Golfe Persique. $115 le baril contre 108 vendredi. Et puis petite tension sur le gaz aussi, à 48€ le mégawatt-heure, on était à 45 hier.
Merci Emmanuel, il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on va continuer à parler sous, puisqu'il y a ce surplus fiscal annoncé, précisé, je dirais, hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, 193 millions sur avril et sur mars qui vont être intégralement utilisés pour les aides sur le carburant. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Mickaël, vous nous appelez de Savoie, vous êtes gérant de société, je crois. Mickaël, comment vous réagissez à cette annonce? Vous saluez la transparence ou alors vous vous dites bah, c'est bien normal?
Ben non, je suis scandalisé en fait.
Ah,
c'est
pourquoi?
Que je dis que en fait, les 193 millions qu'ils ont aujourd'hui appartiennent aux Français.
Bah, de fait, oui, c'est nous qui les avons payés.
Voilà. Et aujourd'hui, ces 93 millions, ils devraient être redistribués à tous les Français. Nous, aujourd'hui, avec ma compagne, on a 3 voitures.
Oui.
On a 2 voitures pour la société, une voiture personnelle. À aujourd'hui, sur les 1,5 mois, quasiment 2 mois, ça doit coûter un peu plus de 600€ de plus par rapport à avant.
600€ pour le couple?
Oui.
Ça fait beaucoup. Et vous ne pouviez pas vous en passer? Vous en avez vraiment besoin des 3?
Bah oui, on a la voiture pour les enfants, les amener à l'école.
Bien sûr.
Et après, les 2 voitures, bah, c'est nos voitures de travail. Donc, nous, on a une société de nettoyage, donc bah, on ne peut
bien
pas
sûr,
faire ça.
Faire la tournée.
On se déplace. On se lève le matin de bonne heure à 5h du matin pour aller travailler. On se lève, on va le soir très tard, on a besoin de nos voitures.
Et vous gagnez trop pour avoir les aides. Donc en fait, les 193 qui vont être, les 193 millions qui vont être utilisés effectivement pour financer les aides annoncées par le gouvernement, vous, ces aides, vous n'en verrez pas la couleur. Hein.
Jamais. Jamais. Oui, effectivement, on gagne très bien notre vie, hein, y a pas de souci. Hein.
Non, mais tant mieux pour vous, hein, je veux dire, vous bossez. Hein.
Mais à aujourd'hui, je suis pas là pour enrichir l'État. L'État a mal géré leurs finances depuis des années. C'est pas aux Français et surtout à nous, petits entrepreneurs.
Les trois voitures, c'est des essences, des gasoil. Vous n'avez pas d'électrique?
Non, 3 diesel. Je ne passerai jamais à l'électrique. Jamais.
Vous ne passerez jamais électrique. Vous avez entendu, on a quand même un certain nombre d'auditeurs qui disaient exactement comme vous et qui finalement se sont laissés tenter. Souvent, ils disent qu'ils ne regrettent pas. Hein.
Ah oui, moi j'ai des amis à moi qui sont passés à l'électrique et aujourd'hui ils sont en train de pleurer.
Eh ben, dites-leur de nous appeler aussi au 3216, c'est important d'entendre tous les points de vue. Merci en tout cas d'avoir réagi, Mickaël, qui donc réagissait effectivement à ces 193 millions. Il dit qu'il faudrait les redistribuer à nous tous parce que finalement, vous comme votre épouse, vous avez contribué avec vos 600€ de plus par mois à cette cagnotte en quelque sorte. Il est 8h14 sur RMC. Notez la suite dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange. Notez aussi qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Gilles Kepel, spécialiste du Moyen-Orient. Il parlera évidemment de cette reprise des combats, en tout cas fragile cessez-le-feu ce matin. Pourquoi l'Iran d'ailleurs a frappé notamment les infrastructures aux Émirats Arabes Unis? Que cherche l'Iran? On va essayer de tout comprendre à 8h30. Et puis, juste après Gilles Kepel, ce sera face à Canteloup pour notre plus grand bonheur. Tous les jours à 8h50, Nicolas Canteloup, c'est sur RMC. Il est 8h14.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h17 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demange a pris quelques jours, mais on vous en a gardé le meilleur. Arnaud qui revient ce matin sur cette histoire complètement loufoque aux États-Unis.
Apolline, on se plaint souvent de nos politiques, mais ça va encore, je trouve, parce qu'aux États-Unis, le chef de l'Agence fédérale de gestion des urgences, en gros, c'est les super pompiers américains, il a sorti une pépite cette semaine. Le gars affirme avoir été victime de téléportation involontaire.
Mais non.
Oui. Le chef des méga-pompiers américains, ah ouais. Pas n'importe qui. Téléportation involontaire, et pas n'importe où. Il dit avoir été téléporté à son insu dans un magasin de gaufres.
Mais qu'est-ce que c'est vrai. Délire.
Non mais c'est vrai. Ah Manu ouais. Le Chypre me disait « Moi, ça m'arrive tout le temps.
Hier, c'est pas involontaire.
C'est pas involontaire. Hier, j'étais à la salle de sport, à rêvasser à la salle adverse qui m'attendait, et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé chez un marchand de gaufres. J'avais une double liégeoise tiède, chocolat noir suppléant chantilly, amande grillée dans la main.
Bah oui.
J'ai rien pu faire.
Bah bien sûr.
Non, mais ça peut faire jurisprudence, cette histoire de téléportation involontaire. Vous savez, les cambrioleurs. En fait, j'ai été téléporté dans la salle des coffres, je sais pas comment c'est arrivé. Jack Lang. Mais enfin, mais qu'est-ce que je fais dans ce jacuzzi plein de mousse avec ces jeunes et faibles et Woody Allen? Écoutez, ça se plaît.
Ça se plaît. Ça se plaît. Ça se plaît. Le porte-avions Charles de Gaulle a été localisé donc en temps réel grâce au profil Strava d'un officier de la marine qui faisait son jogging sur le pont.
Oui, Strava, tout le monde connaît.
Ça y est, on l'a.
Application pour voir. Bon, moi, je suis connecté d'ailleurs au Strava d'Emmanuel Le Chypre. Je peux suivre son parcours en temps réel. Hier, alors. J'ai vu, il a fait BFM Business, cantine, cantine, BFM TV, BFM TV, cantine, cantine, l'autre cantine, parce qu'on en a deux ici, cantine, BFM Business, business, BFM TV, oui. Cantine.
Et bah ça fait bien 10 000 pas tout ça.
Ah oui.
Mais d'où,
pas, d'où et 10 000 calories aussi.
En tout cas, ça m'a surpris que ce soit un scandale. C'est à cause de ça qu'ils ont localisé un porte-avions. Oui. Je ne savais même pas que c'était censé être discret, un porte-avions. Moi, je pensais que c'était là pour impressionner, que ça se voyait depuis la lune.
Oui.
En tout cas, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un coureur Strava dans l'avion de la Malaysia Line Airlines. On serait moins emmerdé.
Oui.
Ceci dit, il a dû être content, le gars. Parce qu'il fait du sport, c'est pour le montrer. Puis d'un seul coup, il s'aperçoit que sur son appli, c'est l'emballement. Tout Internet le regarde. Oh, c'est ouf! Putain, les gars, il y a Vladimir Poutine, il a commencé à me suivre. Quoi. C'est un président, il suit mes perfs. J'ai un like de Xi Jinping. Putain, je dois courir vraiment super bien. Et alors, il a commencé à faire des vidéos. Salut la commu. Alors, merci d'être là, les fololos. Vous êtes nombreux à me suivre du monde entier. Je vois, il y a des gens en Iran, en Syrie, au Liban, en Amérique. Merci de votre soutien. Alors, aujourd'hui, je vais tenter une petite course, un petit défi. Ça va être difficile à cause du vent parce que vous voyez, je suis à quoi? Au large de Ispahan, à 4-5 kilomètres, juste avant le détroit d'Hormuz. Ah merde, on a été repéré.
Patrick Bruel, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.
Dont Nicolas Hulot, l'abbé Pierre, Patrick Bruel, le classement des Français préférés des Français. On va quand même le regarder différemment. C'est pas le JDD qui devrait publier ça, c'est le nouveau détective.
C'est ça.
J'espère que Jean-Jacques Goldman ne va pas tomber. Par contre, Thomas Pesquet, ça me déplairait pas.
Ah
je
oui.
Prends.
Ah ouais, oui, non,
mais
prenez.
C'est pas contre lui, mais il est tellement parfait, ce gars-là. Ouais. C'est insupportable, lui. On va bien trouver une martienne à qui il a tripoté les 3-5 qu'elle a dans le dos. Il va nous dire, c'était juste un slow, parce qu'il a réponse à tout, en plus. Il est intelligent.
C'est dingue.
En tout cas, on n'écoutera plus jamais les chansons de Patrick Bruel comme avant. Alors, regarde un peu. Bah non, monsieur, on va pas regarder ça. Remettez votre pantalon. Rendez-vous, place des grands hommes. Non.
Oh non.
En tout cas, vous voyez, c'est encore une star des années 90 qui vient de nous quitter. C'est le décès. Adieu, Patrick. Funeste destinée. Monde cruel. Iras-tu jusqu'à nous prendre Ménélique, Willy Denzel, Alliance Ethnique, Nadia ou Alain Duhamel? Non.
Arnaud Demange, pour notre plus grand bonheur. Il est 8h21 et c'est le moment de vous gâter et de s'occuper de vos vacances. Qui a gagné la semaine de vacances, bel embras? C'est vous, Franck. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, Apolline. Merci. Super,
félicitations,
génial.
Franck. Merci. Vous faites quoi? Vous vivez où?
Je suis en retraite. J'habite en Haute-Saône, un petit village qui s'appelle Cé-sur-Saône, en bord de Saône.
Ça fait déjà rêver. Moi, je veux bien déjà venir à Cé-sur-Saône.
Ouais, c'est super. Un joli village.
Un joli village qu'on salue, mais vous allez effectivement pouvoir aller vous promener en France, puisque, je le rappelle, on vous offre donc ce séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embras. Vous avez déjà une idée de l'endroit où vous voudriez aller?
Ouais, je pense la Corse.
Ah, la Corse.
Ouais,
très bon choix.
On adore.
On adore. Quand vous dites « on », c'est que vous savez déjà avec qui vous voulez partir.
Ben oui, déjà avec mon épouse et puis peut-être mes petits-enfants.
Ah voilà. Mais trop sympa. Eh ben écoutez, on voilà. vous embrasse très fort. Elle s'appelle comment, madame?
Carmen.
Eh ben on embrasse Carmen et vous aussi Franck. Belles vacances okay. à vous. On est très heureux de vous avoir gâté ce matin puisque ça y est, donc vous avez gagné ce séjour Bel Embras. Toute la semaine, on vous offre vos vacances sur RMC. Il est 8h22.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embras. Bel Embras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Faut-il craindre une reprise des combats au Moyen-Orient? C'est à nouveau l'escalade. L'Iran a frappé hier des infrastructures aux Émirats Arabes Unis. Mon invité dans un instant, dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend l'initiative, le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis vont-ils riposter? Toutes les réponses dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadoudine.
La hausse des prix des carburants profite-t-elle à l'État? Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les augmentations à la pompe ont engendré 190 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier, annonce du Premier ministre hier soir. Mais Sébastien Lecornu promet transparence et redistribution totale. Cette somme financera intégralement les 380 millions d'euros d'aide déjà annoncés. Un navire appartenant à un géant danois du transport de marchandises a pu passer le détroit d'Ormuz escorté par la marine américaine. On l'apprend smart ce matin au deuxième jour de l'opération déblocage annoncée par le président des États-Unis Donald Trump. 5 Français sont bloqués à bord du bateau de croisière touché par l'antivirus. Au total, 149 passagers ont été placés en quarantaine de force, empêchés de débarquer au Cap-Vert. 3 personnes atteintes du syndrome respiratoire aigu sont mortes. 2 autres sont touchées, gravement malades. Le croisiériste recherche un port où accoster au plus vite. Le football, demi-finale retour de la Ligue des Champions, Arsenal-Atlético Madrid ce soir. Et demain, 21h, le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne sur la pelouse du Bayern Munich, là où les footballeurs parisiens ont soulevé leur première Ligue des Champions l'an dernier. La météo, beaucoup de pluie aujourd'hui, en particulier sur la Sarthe et la Mayenne, deux départements en vigilance orange pour forte pluie, risque d'inondation. On attend d'ici ce soir l'équivalent de 3 à 4 semaines de pluie. Globalement, il va beaucoup pleuvoir hein, entre la Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Île-de-France, Massif Central, Bourgogne, Ardennes. Ailleurs, des averses orageuses, retour d'un temps plus calme sur le Languedoc, le tout avec des températures en baisse cet après-midi, souvent de 2 à 4 degrés sous les normales de saison.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Rachel Sadoudine. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est le spécialiste du Moyen-Orient, Gilles Kepel. Pourquoi l'Iran prend le risque de relancer les hostilités? Qui a l'avantage? Israël et les États-Unis qui s'apprêteraient à riposter? Toutes les informations et les réponses donc sur RMC et BFM TV dans un instant avec mon invité. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'était aux éditions Plomb. Est-ce qu'on peut encore parler ce matin de cessez-le-feu? La situation est très tendue. Qui des États-Unis ou de l'Iran a l'avantage? On va essayer de comprendre tout ça avec vous. Mais d'abord, cette question, lorsque l'on a vu hier des bombardements, notamment des tentatives sur les Émirats Arabes Unis venant de l'Iran, la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi l'Iran? Pourquoi l'Iran reprendrait l'initiative éventuelle d'une cessation du cessez-le-feu et d'une reprise des hostilités?
En fait, ils sont dans une situation de ni guerre ni paix. Et il n'y a pas franchement de reprise des hostilités, mais il y a des pressions militaires. Et celle que vous venez d'évoquer est très significative, puisque c'est sur Fujairah, c'est-à-dire le terminal pétrolier des Émirats Arabes Unis qui donne sur la mer d'Arabie, ou mer d'Oman, c'est-à-dire au-delà du détroit d'Ormuz, juste après que les Émirats se sont retirés de l'OPEP, au moment où il est devenu public que le dôme de fer israélien avait été déployé sur leur territoire, dans le cadre des accords d'Abraham. Et donc, les Iraniens ont voulu montrer que sur cette affaire, ils étaient vigilants et qu'ils allaient taper ce point-là. C'était aussi une manière d'accroître les contradictions à l'intérieur des pays arabes du Golfe, puisque d'un côté...
Enfoncer un coin, voilà. Les Émirats arabes unis d'un côté,
l'Arabie saoudite de l'autre, etc. Les Émirats se sont maintenant rapprochés du Bahreïn, ils ont racheté la dette du Bahreïn que les Saoudiens avaient laissé un peu tomber. Les Saoudiens se rapprochent, eux, du Qatar, ce qui était tout à fait contre nature autrefois. Et quant à l'Oman, il a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien longuement la semaine dernière. L'Oman n'est pas allé au sommet du GCC, du Conseil de coopération du Golfe à Jeddah. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'éparpillement dans le Golfe, dont évidemment Téhéran tire tous les bénéfices.
C'est extrêmement intéressant, on a l'impression avec vous que le puzzle se redessine en quelque sorte en ce moment, au-delà de la seule question de l'affrontement entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Cette histoire quand même des Émirats Arabes Unis. Vous avez mentionné le dôme de fer israélien qui aurait été, semble-t-il, ça n'a pas tout à fait été confirmé, utilisé pour protéger les Émirats Arabes Unis, pour intercepter certains missiles iraniens.
Oui, en tout cas au moins sur Abu Dhabi, parce que les Émirats sont assez étendus. Vous avez deux parties, vous avez la zone Abu Dhabi-Dubaï, et puis vous avez l'Émirat de Fujairah, qui lui traverse la péninsule du détroit d'Ormuz, si vous voulez. Au nord, vous avez un morceau de l'Oman, du Sudanois, qui s'appelle Mosandam. Au sud, l'Oman avec Mascate, et vous avez ce corridor qui permet aux Émirats d'avoir une fenêtre sur la mer d'Arabie, ce qui lui permettait en tout cas d'exporter jusqu'à aujourd'hui 3,5 millions un peu moins de barils de pétrole par jour, ce qui assurait d'une certaine façon sa capacité de fonctionnement, et surtout s'il sortait de l'OPEP, pouvait l'augmenter. Donc ce sont des frappes qui sont menées par l'Iran de manière à faire dérailler un processus ici, en encourageant, ils ne tapent pas sur l'Arabie Saoudite, par exemple, parce qu'ils veulent l'encourager à trouver des accommodements, et donc briser la stratégie américaine de soutien à l'ensemble des pays du Golfe.
Et évidemment, on va se poser la question dans un instant de savoir si ce détroit d'Ormuz peut être libéré et s'il y aura des répercussions, des réponses et une reprise franche et massive des hostilités. Mais avec cette idée d'avoir été ciblé les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'au fond c'est une manière pour l'Iran d'entraîner les pays du Golfe dans cette guerre, et est-ce qu'au fond ils vont vraiment y aller? Est-ce qu'il pourrait y avoir des répliques?
Non, je crois qu'ils ont ciblé les Émirats parce qu'ils ont vu qu'il y avait aujourd'hui une rupture, un certain niveau de rupture entre les Émirats et les autres. Ils n'ont pas ciblé les autres. Ils ont fait ça exprès pour attiser les contradictions.
Et on précise que deux personnes ont été blessées après qu'un immeuble résidentiel à Oman aussi a été visé par une attaque. Ça paraît plus surprenant.
Oui, alors, ils ont déclaré dans le passé, du genre les Iraniens, que des attaques sur Oman n'avaient pas été de leur fait, qu'ils les avaient démentis. Ils ont peut-être eu lieu, mais ils sont souvent attentifs justement à ménager le sultanat d'Oman, parce que dans leur esprit, si péage il y a, ce dont ne veut pas la communauté internationale évidemment,
ce sera forcément entre les deux.
Voilà, l'idée c'est
Oman d'un côté, côtes iraniennes de l'autre.
Négocier avec les Irans un partage, pour les Omanais ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça fait partie des fers qu'ils conservent au feu.
Gilles Kepel, les frappes sur les Émirats Arabes Unis n'ont pas non plus été tout à fait revendiquées par l'Iran. À quoi joue l'Iran, y compris en termes d'opinion publique ou de communication?
Mais c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une situation de ni guerre ni paix.
Et on n'assume pas.
Non, mais
on fait dérailler.
Mais on montre qu'on est capable de faire dérailler les processus, et c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sayed Abbas Araghchi, en disant mais les Américains sont fous de vouloir passer en force. La seule chose qui est faisable, ce sont les négociations. Et quand il dit ça, il reprend, ou il fait semblant de reprendre, ce que disent les Européens. Le président Macron, le chancelier Merz ont également dit
il faut reprendre les négociations.
Une manière négociée de sortir de la crise du détroit d'Ormuz. Oui. Donc vous avez une espèce d'habileté iranienne. Hein. Ce sont des gens qui sont rompus à la diplomatie depuis des années. Et face à cela, vous avez des promoteurs immobiliers, sans rien contre cette profession par ailleurs, qui veulent faire des deals immédiatement. Et on voit
donc
bien.
Donc on veut des deals d'un côté, on veut une sorte de diplomatie madrée de l'autre.
De l'échiquier, si vous voulez, oui.
Est-ce que les négociations, c'est encore possible?
Alors, c'est possible plus ou moins, c'est-à-dire que il y a toujours des propositions qui circulent à travers le Pakistan, d'un côté et de l'autre. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le suivant. Les Américains voudraient qu'il y ait une négociation qui ne porte que sur la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et vous savez qu'il y a toujours 900 bateaux qui sont coincés, avec à peu près 20 000 marins, d'après les chiffres, dont on apprend aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile. Il y a plus de nourriture. Ils sont là depuis maintenant plus de 2 mois. La situation n'est pas du tout simple. Il y a une espèce de promiscuité, etc. Donc, pour les armateurs, ça pose toutes sortes de problèmes, les assureurs, etc. Il y a cette dimension-là. Donc, les messages passent. Et mais l'Iran veut dire non, on veut négocier, mais on s'arrête là. Alors que les Américains disent on empêche ça et il y a derrière le nucléaire.
Mais qui bluffe ? Il y a quand même cette question fondamentale du passage ou non les deux, du passage ou non de bateaux américains. Du côté des États-Unis, on dit il y en a quelques-uns qui sont passés. Du côté de l'Iran, on dit c'est n'importe quoi. Quelle est la réalité et est-ce que tout cela peut s'embraser dans les heures qui viennent ?
Alors, s'embraser, je ne crois pas que ni l'un comme l'autre y ait intérêt immédiatement. Puisque l'Iran a cette espèce de stratégie de harcèlement avec comme objectif que les sondages de Donald Trump dans la perspective des midterms soient de plus en plus mauvais et de le pousser à la faute. Puisque, en fait, il y a une échéance fixe du côté américain, ce sont les élections de la mi-novembre et les contradictions dans lesquelles est pris le président des États-Unis. De l'autre côté, pour l'Iran, il n'y a pas d'échéance fixe. Les Pasdaran veulent essayer de tenir le plus longtemps possible, mais en tenant, ils continuent à faire que l'économie se dégrade, la société n'en peut plus, etc.
Donc il y a quand même, en réalité, deux temporalités. Il y a une temporalité politique et financière, malgré tout, aussi du côté américain, puisque la question du coût de la guerre commence à être une question récurrente dans l'opinion publique américaine. Mais de l'autre côté, côté iranien, à la fois, on a le temps pour soi parce qu'ils sont dans une logique d'un régime qui tient et qui est jusqu'au boutiste, mais avec une économie qui, aujourd'hui, est quand même nettement fragilisée. On parlait de la question du stockage de leur pétrole. Est-ce que ça reste une échéance qu'ils ont en tête ?
Alors, sur les Américains, déjà, il y a ça, vous l'avez évoqué. Il y a aussi, par exemple, l'augmentation du nombre de faillites des agriculteurs américains, parce que les prix du carburant sont envolés et il n'y a pas eu d'économie d'énergie aux États-Unis parce que c'est un pays producteur. Mais
les engrais, on parle beaucoup aussi de la question des engrais, de la saison des
travaux. Ce sont les grosses masses électorales du Parti républicain. Vous voyez, ça, c'est un vrai problème pour Donald Trump. Alors, du côté du contre-blocus, c'est-à-dire, on s'était dit, quand il y a eu l'initiative, il y a une dizaine de jours, des Américains de bloquer en mer d'Oman ou en mer d'Arabie, comme on l'appelle, la sortie et l'entrée vers le Golfe, ou à partir du Golfe, le navire qui allait en Iran, qui sortait avec du pétrole iranien, on s'est dit à ce moment-là, un peu vite, c'est fini, le stockage va être saturé, il va falloir que l'Iran ferme ses puits, ils seront difficiles à remettre en marche, les Chinois ont déjà payé, etc., ils sont aux abois, ils vont lâcher. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de navires iraniens ou avec d'autres pavillons, mais avec du pétrole iranien, qui sont aujourd'hui en mer de Chine, qui sont sur les eaux, qui ne donneront, parce qu'il faut 2 mois à peu près de navigation pour aller en Chine, qui ne délivreront leur pétrole un peu plus tard.
Donc ils ont en réalité quand même des réserves d'argent à venir.
Ils ont de quoi tenir. En gros, l'Iran a de quoi tenir. Aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin de l'été.
Donc quand on parlait des 20 jours de stockage avant que les sites de stockage ne soient saturés et que donc qu'ils soient obligés éventuellement de fermer le robinet des puits de pétrole, en réalité, ils ont davantage de temps devant eux.
Semble-t-il, oui. Et ça, c'est ce calcul qui avait été fait de manière un peu erronée, probablement, qui, du coup, rend plus difficile la stratégie de pression maximale.
Est-ce que ça veut dire, Gilles Kepel, que vous diriez ce matin que c'est l'Iran qui a l'avantage ?
Alors, c'était les États-Unis qui avaient l'avantage, indéniablement, quand il y a eu le contre-blocus. Aujourd'hui, l'Iran a effectivement marqué sa capacité à résister. Parce que dans l'affaire aussi, outre la temporalité que vous avez mentionnée, pour l'Iran, il suffit de ne pas perdre pour avoir gagné, d'une certaine manière, dans cette affaire. Alors que les États-Unis ont besoin de gagner pour gagner. C'est pas la même chose. Et vous voyez des soutiens dans une partie du monde, du Sud global, qui finalement considère que l'Iran a résisté à l'impérialisme américain.
Contre le grand
américain.
Méchant voilà, impérialiste ça, américain. Voilà. Oui.
Donc tout ça est en train de changer et ça n'est pas sans évoquer du reste ce qui s'était passé après le 7 octobre 2023 où tout le monde avait trouvé que c'était affreux ce qui s'était passé à Gaza, le massacre des en Israël plutôt, l'enlèvement des otages, le massacre
du 7 octobre, etc.
Ça s'est inversé en soutien à ceux qui avaient
Vous estimez qu'au fond, presque du point de vue désormais politique ou de communication, le fait même que l'Iran tienne, c'est en soi une forme de victoire, au moins temporaire.
C'est un succès temporaire. Ce pourquoi vous avez, je vous dis, on l'a dit tout à l'heure, Araghchi qui reprend quasiment délibérément des éléments de langage qui sont ceux des Européens en disant il faut une solution négociée sur le détroit d'Ormuz et puis le nucléaire on verra plus tard.
Mais c'est presque ironique.
Oui, bien sûr, mais
c'est au moins cynique.
Ils font oui, bien tout à fait cynique, ils font feu de tout bois bien sûr.
Gilles Kepel, hier l'agence de presse Reuters avait certaines informations qui lui laissaient croire que l'Iran n'aurait besoin, je cite, que de 9 à 12 mois pour obtenir l'arme nucléaire. Comment est-ce que c'est possible, ça, alors qu'il y a eu la guerre des 12 jours avec les bombardements, alors qu'il y a eu ces 66 jours donc de guerre depuis le déclenchement?
Oui, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il en est.
Est-ce que là encore, c'est une forme presque... L'Iran n'a pas forcément intérêt à revendiquer cette capacité si rapide?
Oui, dans une certaine mesure, pour pouvoir apparaître comme une puissance de paix, si vous voulez, auprès de ses soutiens. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force du régime et sa capacité. Nous aurons la capacité d'utiliser le nucléaire. Et nous n'avons pas peur des États-Unis dans un monde qui est complètement délabré, où les alliances sont en train de se briser. Tout ça se fait dans un contexte où l'OTAN est en train de cesser d'exister, si vous voulez.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, dans cette espèce de moment où vous le dites, on n'est plus vraiment en guerre, mais on n'est pas non plus du tout en paix?
C'est-à-dire que c'est pas seulement, d'une certaine manière, ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui est un révélateur aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Regardez l'autre front, le front israélo-libanais, est aujourd'hui dans une situation absolument catastrophique. Donald Trump souhaitait que le président libanais Joseph Aoun et Bibi Netanyahou se serrent la main à la Maison-Blanche et fassent la paix. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Que le président libanais aille serrer la main au Premier ministre israélien, avec l'armée israélienne qui est toujours présente dans la zone
sud du Liban.
Et qui, jour après jour, envoie des bulldozers raser les habitations des villages chiites et des villages chrétiens.
Ça veut dire qu'Israël est en train de détruire sa propre capacité à pouvoir négocier, alors qu'il y avait une sorte de début d'espoir, oui, de dialogue au minimum avec le voisin libanais.
Bien sûr, l'argument d'Israël, c'est qu'il y a toujours les roquettes du Hezbollah qui arrivent. Et là aussi, ce qui est très frappant, vous voyez, le développement des armes. Le Hezbollah dispose maintenant de mini-drones à fibre optique qui ont fait des ravages parmi les soldats israéliens, qui ont fait tomber un hélicoptère, etc. Et donc, il y a cette dimension-là qui est aussi tout à fait...
Mais ça, pardon, c'est assez inouï. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que jour après jour, au fond, ce que l'on imaginait être des capacités détruites du côté de l'Iran, ou au minimum affaiblies du côté de l'Iran, du côté du Hezbollah, on a l'impression que quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Oui, et ça, le Hezbollah, c'est quand même quelque chose de tout à fait stupéfiant, parce que en septembre 2024, il y a eu la fameuse affaire des beepers piégés, vous vous souvenez?
Mais ça veut dire que le Liban a été complètement poreux, oui, en quelque sorte, à une forme d'entrisme, mais y compris matériel,
oui, par les gardiens de la Révolution, qui ont reconstitué complètement le Hezbollah. Alors, est-ce que c'est arrivé par l'aéroport qui est en zone chiite, par la mer, ou aussi par des tunnels venant par la Syrie d'Ahmad al-Sharaa, pourtant très opposé à l'Iran, mais... Il faut bien faire des affaires et la Syrie est aussi en train de réexporter du captagon vers le Golfe aujourd'hui parce qu'ils ont besoin d'argent.
Au moment où l'on se parle, le président du Parlement iranien à l'instant dit, je cite, que l'Iran n'a même pas commencé son bras de fer avec les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. On est encore dans la relation, le bras de fer, la relation, le rapport de force, et cette revendication que
on en a encore sous le pied, c'est ce que nous disait Zéranien.
Oui, c'est ça, en évitant de mettre ses forces en action. Parce que là, il va falloir, il y aura un test de vérité. Pour l'instant...
On n'y est pas encore à ce test de vérité.
Non, je pense que... vous pensez toujours qu'il y a... Les Pakistanais continuent à faire passer des messages d'un côté et de l'autre. Et l'objectif des Iraniens, c'est de faire en sorte qu'à un moment, Trump, voyant qu'il n'arrive pas, en dépit des destroyers qui ont été envoyés, etc., à une solution significative d'ouverture, accepte de faire une négociation sur le détroit et dise, dans un deuxième temps, on verra ce qu'il en est du nucléaire. Et à partir de ce moment-là, l'Iran aura acquis un avantage. Mais les États-Unis ne veulent pas lui laisser cet avantage, parce que sinon, c'est toute la réputation de Trump qui s'effondre. Et vu l'état des sondages aujourd'hui, vu l'état... Alors, c'est très bien, l'économie américaine est très contestée. La bourse n'a jamais été aussi haute, grâce aux valeurs technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps, le prix du pétrole n'a jamais été aussi élevé. Et donc, on est dans un contraste qui est pas terrible pour les électeurs.
Une dernière question, Gilles Kepel, la Chine, dans cette histoire, est-ce qu'elle a une réelle influence? Comment est-ce qu'elle tire son épingle du jeu? On a quand même l'impression qu'elle regarde tout ça avec beaucoup d'attention.
Oui, alors eux, ils ont vraiment des stocks de pétrole très importants. Ils soutiennent l'Iran en le finançant essentiellement. Mais en même temps, l'empire manufacturier chinois a besoin d'avoir une assurance régulière d'approvisionnement énergétique. Donc là, il y a un grand point d'interrogation pour eux. D'autre part, eux voient dans la baisse du nombre de missiles américains quelque chose qui est très bien, puisqu'il y en aura moins qui iront défendre Taïwan. Mais je ne pense pas que la Chine soit prête aujourd'hui à un affrontement avec les États-Unis. Elle attend son heure. Et évidemment, l'affaiblissement américain qui apparaîtrait jour après jour ferait ses affaires. Un autre enjeu, c'est la Russie. La Russie qui aurait dû être enrichie par la hausse du pétrole. En fait, ça n'est pas si clair que ça, puisque depuis qu'il y a plus d'investissements étrangers en Russie, le système d'exploitation pétrolière s'est beaucoup affaibli. Ils sont très au-dessous de leur quota de l'OPEP. Et surtout, ça qui est très étonnant, c'est l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine qui avait été attaquée par des drones iraniens en grande quantité vendus par l'Iran à la Russie a réussi à construire des espèces de machines anti-drones Shahid qui valent trois fois rien et qui sont en train de vendre aujourd'hui, très cher je le suppose, mais beaucoup moins cher que les Patriotes, aux Émiratis, aux Saoudiens,
etc. Et c'est effectivement assez inouï de voir d'un front à l'autre.
Donc on voit comment tous ces conflits divers d'une certaine manière s'imbriquent dans un système où les alliances sont en train de se dissoudre et où Trump crache sur l'OTAN tous les jours.
On reconstitue effectivement le puzzle. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, était mon invité dans le face-à-face ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Et Emmanuel Macron, tiens, souhaitait réagir. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et à tous et toutes, à celles et ceux et celles, les Gilles Kepos et les Gilles Kepel. C'est dingue, j'ai appris plus de choses sur la guerre au Moyen-Orient en entendant Gilles Kepel qu'en assistant au Conseil des ministres. Cher Gilles, est-ce que vous accepteriez de prendre en stage de troisième Jean-Noël Barrot, mon ministre des Affaires étrangères? Je pense qu'en une semaine avec vous, il peut acquérir deux, trois notions utiles sur les subtilités du monde arabe. Alors bien sûr, ça va sans dire, ce sera un stage gratuit, oui. Vous connaissez les finances de l'État.
Ah, bien sûr.
Mais en échange, je peux vous offrir une croisière all inclusive au large de Chypre sur le Charles de Gaulle ou peut-être je peux même m'arranger pour vous laisser conduire un char d'assaut sur les Champs-Élysées le 14 juillet.
C'est pas mal ça.
Ça, c'est pas mal.
Merci Monsieur le Président. Gilles Kepel est justement resté avec nous, je le disais. Vous pouvez nous résumer la situation, s'il vous plaît, Monsieur Kepel?
Oui, effectivement, la situation est en train de se complexifier très nettement pour tous les tenants et aboutissants du conflit. Ça devient très compliqué pour le président américain Donald Trump. Oui, je parle un anglais parfait, en plus avec l'accent du Wyoming. Car il y aura bien sûr les
les élections de mi-mandat en novembre, les fameuses midterm. Mais je peux mettre une pointe d'accent du Kentucky aussi. Le président américain s'était, vous le savez, engagé à ne pas envoyer de GRs. Je suis facile aussi sur le Nevada.
C'était Nevada. Oui.
Hors des frontières, hors sa base, MAGA attend qu'il tienne ses engagements. MAGA pour Make America Green. Oui, je peux aussi prendre l'accent du Delaware et du Connecticut.
Bon, très bien. Gilles Kepel, les Français sont intéressés du prix de l'essence, notamment pour leurs vacances.
Oui, les vacances, effectivement, oui, voilà. Les holidays, comme on dit dans l'Arkansas. Les États-Unis et l'Iran bloquent en Hormuz, vous le savez. Du coup, le canal de Panama redevient prioritaire, surtout après que les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP et que la Russie ne négocie plus avec l'Ukraine. Vous le savez, ce qui fait bien sûr les affaires du Venezuela, d'autant plus que l'Union européenne patine.
Oui.
Il faut le bien dire, face à un Donald Trump tenace et aux pays du Mercosur qui, pour leur part, viennent de conclure un accord de libre-échange avec le califat de Norvège, d'obédience wahhabite et la République islamique de Nouvelle-Zélande qui, comme chacun sait, vous n'êtes pas sans l'ignorer, chère Apolline de Malherbe, sert de base arrière à de nombreux outils yéménites. Vous l'avez compris, si les Français ne peuvent plus se payer de billets d'avion, juste en m'écoutant, ils pourront toujours voyager.
Oui, c'est bien ce que j'ai ressenti. Merci beaucoup, Gilles Kepel. Tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel, tiens, pour les titres de l'actualité.
Ouais, salut à Pau. Dis donc, ça c'est bien d'inviter un expert du monde arabe, mais ce serait encore mieux s'il pouvait parler français. Ah, il parlait français. Ah ben, non, c'est sûr. Non, parce que j'ai tellement rien compris sur le Moyen-Orient que j'ai cru qu'il parlait une langue de là-bas. Allez, c'est parti pour les titres. Musique. 2 millions de personnes ont assisté au concert gratuit de Shakira sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Nul. Non, mais elle est nulle. Nulle la Colombienne. Céline Dion, elle a eu 9 millions de demandes payantes pour un concert dans une salle à Nanterre. Je peux dire que là-bas, j'ai pas besoin de plage. Cocotier, Céline, tu lui montes une scène avec 2 palettes sur la plage de Dunkerque, elle chante devant 2 millions de personnes avec des billets à 3 000 euros. Nul, Shakira, nul. Et puis après Thomas Soto, triste nouvelle, on l'a su, et sa chute en vélo, c'est au tour de Bruce Toussaint, autre matinalier, chers collègues, de devoir céder sa place à l'antenne après une mauvaise chute. C'est donc le 4e présentateur de matinale victime d'une chute cette saison.
Non, ça fait 2.
Ben si, ça fait 4. Dominic Tenza, Perrine Storm, ils sont bien tombés aussi. Elle chute d'audience.
Puis pour faire un point sur la situation dans le détroit d'Hormuz, le consultant militaire de BFM, le général Pélisse-Randy, est avec nous. Général ? Général ? Il est où ? Général ? Ah, il est là ! Il sort de sous la table. Général, vous êtes avec votre casque ?
Mirabel a fait les gantines. Mirabel a fait les gantines.
Général Pélisse-Randy ?
Non mais oui, c'est pas les gantines, c'est Pauline. Non, c'est Pauline. Alors, oui, j'essaye de retrouver mes hommes de la 7e compagnie. Tassin, Pithiviers et Twitek.
Ah oui.
Et on a aussi intégré une fille, parce qu'à BFM, on est une armée moderne, on a Elsa Vidal.
Ah oui.
Je suis amoureux d'Elsa Vidal, la fille aux cheveux gris. C'est les cheveux gris, parce que c'est un super camouflage, les cheveux gris, parce que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, parce que moi, je suis resté très proche du terrain, hein, même si le terrain, il y a longtemps qu'il ne m'a pas vu.
Hein,
voilà. Oui, moi, la dernière guerre que j'ai faite, c'était le Tchad en 78.
Ah oui. Hein,
oui. Mais maintenant, ça a évolué, la guerre. Maintenant, c'est Tchad GPT.
Ah oui.
Je ne sais pas où c'est sur la carte, mais Tchad GPT.
Oui. On est à l'antenne générale.
Oui, pardon.
Oui.
À vos ordres. Ah non, c'est moi le général. Pardon.
Oui, c'est vous. Alors, général. Bon, c'est la fatigue. On a vu que vous travaillez beaucoup quand même.
Oui, c'est le problème. Je travaille beaucoup. Si le problème, c'est que c'est une chaîne info en continu.
Ah bah oui,
voilà. C'est tous les jours, c'est 9 jours sur 7. J'ai même pas pu faire le pont du 1er mai. Je sais pas qui est le con qui a fait sauter le pont. Hein, pourtant, j'avais bien dit le fil rouge sur le bouton vert, le fil vert sur le bouton gris. Mais
vous faites jamais remplacer, général?
Non, ben non, parce que vous savez ce qui se dit à la rédaction. Je suis irremplaçable. Oui, alors ils essayent de faire tourner les effectifs des généraux, hein, mais les autres, ils sont pas au niveau.
Moi,
du coup, on se relaye à tour tour de rôle, mais c'est quand même très souvent chacun mon tour. Hein, voilà. Il fait quand même un peu chaud dans votre studio. Oui. Je sais que c'est pas réglementaire, mais sur un théâtre d'opération, parce que c'est Riquet, mais je peux m'enlever mon cax.
Oui,
mon
vous cax. Pouvez vous enlever vos
cax. Voilà. Alors,
Faut l'image. Voilà. Regardez oui, sur les réseaux alors, sociaux,
voilà,
je vous en prie.
Oui, c'est pas alors, réseaux sociaux. C'est pour les réseaux sociaux. C'est pour
les réseaux sociaux. Alors, oui, général, je vous écoute.
Oui, je me sens plus léger, vous voyez, plus à l'aise pour parler de la guerre des bateaux. Parce que ma force, c'est que je suis expert nulle part, mais je suis à l'aise partout.
Ah oui.
Et oui, si les gens s'en rendent compte, en mer, je flotte. Dans les airs, bon, bah, je survole. Et sur terre, bon, bah, je m'enlise. Bon, allez, je vous laisse. À vos ordres, mon général.
Non, c'est vous le.
Oui, c'est moi du général. J'oublie toujours.
Merci beaucoup Nicolas, et merci à Gilles Kepel d'être resté à...
Voilà, il se demande ce qu'il fout là.
Face à Canteloup qu'on retrouve donc tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous recevrons l'homme d'affaires qui veut régler ses comptes avec Dominique de Villepin, Robert Bourgi. On regardera aussi le calendrier pour les actifs. Depuis hier, ils arrêtent de financer la retraite pour leurs parents. Mais jusqu'au 18 juillet prochain, on continue de payer via la fiscalité. Ça vaut le coup encore de bosser. Allez, à tout de suite au 32-16.